pense qu'il faut quand même distinguer justement au niveau des relations qu'une personne a avec ses amis, avec sa famille. Je pense que là, c'est bien de voir avec qui le partager. Je veux dire, il y a des personnes où c'est possible. Peut-être qu'on ne peut pas le raconter n'importe comment dans un bistrot, ça c'est vrai, mais peut-être que telle personne est de confiance et c'est possible qu'elle soit aussi consciente du fait qu'on ne peut pas le raconter n'importe comment et n'importe où. Donc je pense que là aussi, ça doit être gérable et qu'il y a quand même plus de personnes qui sont prêtes à avoir un ami qui est séropositif ou, ou une copine ou un copain ou, et qu'il y a aussi des personnes qui ont fait le choix de le dire, qui ont fait le choix de le dire et assumant pour eux-mêmes ce qui se passe, les personnes autour peuvent aussi le vivre d'une certaine manière. Moi, je ne peux pas dire qu'il faut le faire, mais j'ai vu des personnes qui arrivaient à le faire et ça se passe bien. Pour moi, alors, c'est autre chose au niveau des assurances, par exemple, et par rapport à l'emploi. Je pense que là, il faut se battre pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Et que à ce niveau-là, c'est une lutte au niveau politique, parce que l'Office fédéral de la santé publique, par exemple, donne des indications et des souhaits par rapport à la non-discrimination des personnes séropositives et malades, mais il n'y a aucun pouvoir d'imposer. Par exemple, un employeur, il peut être libre de décider de demander aux personnes qui l'engagent de faire un test. Les personnes peuvent refuser, mais ne seraient ainsi pas engagées. On ne peut pas imposer à un employeur qu'il ne fasse pas de test. Par contre, ça peut être tellement mal vu qu'il ne le ferait pas. C'est ça qui s'est passé en fait à Neuchâtel où une assurance voulait proposer le test à tout leur personnel et avec des pressions politiques, en fait, ils sont revenus en arrière. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore au niveau des assurances qui sont en train de se décider en fait.
Parce qu'il y avait par exemple le cas de la Gewerbekrankenkasse, enfin pour la citer elle, qui en fait qui prétend sanctionner les personnes atteintes du sida si celles-ci ne peuvent pas fournir la preuve que la maladie n'est pas de leur faute. Alors donc c'est quand même c'est extrêmement gros et grossier hein, ce genre de choses. Là aussi la mutuelle suisse du Grütli, il y avait aussi elle prétend aussi exclure les séropositifs appartenant à des groupes à risque de toute couverture complémentaire et elle estime une réserve HIV positive légitime dans le cadre de l'assurance de base. Donc c'est vrai que c'est pas le cas de toutes les assurances parce qu'il y a même certaines assurances dont une mais malheureusement de elle je me souviens pas le nom qui elle a dit ouvertement qu'elle ne mettrait aucune restriction par rapport aux personnes séropositives. Mais c'est vrai que c'est loin d'être le cas de toutes les assurances, qu'il faut absolument se battre par rapport aux assurances, par rapport aux employeurs, dès qu'il y a des restrictions, une mise à la part des personnes séropositives. Mais comme il y a encore au niveau des lois, c'est pas encore assez défini, c'est vrai que ce test doit être absolument anonyme. Justement lié au sida, donc on parle de tests anonymes, de tests donc pas de tests anonymes ou comme on dit nominal. Alors comment faire la différence, comment procéder pour faire un test anonyme?
Oui. C'est donc possible à Genève, à l'hôpital cantonal, de faire un test anonyme, c'est-à-dire où on ne donne pas le nom, où ça se passe avec un chiffre, il y a juste l'année de naissance et le sexe et de cette manière-là, il n'y a pas de traces au niveau administratif. Il faut payer ce test, il coûte 30 francs. Bien sûr, à part ça, on peut aller chez un médecin ou dans un laboratoire et demander un test qui, après, passe par la caisse maladie. Mais vu que les problèmes sont justement avec les assurances, de fait, c'est bien d'avoir ces doubles sécurités. Donc, c'est la première situation où le secret médical ne suffit pas, où on a, et l'Office fédéral était d'accord d'accepter cette possibilité, on a une deuxième sécurité parce que le secret médical uniquement ne suffit pas. Bien sûr, ça devient différent pour une personne qui est malade, qui a des symptômes. Donc à ce moment-là, bien sûr, elle va être suivie médicalement et elle aura un dossier médical et le traitement sera pris en charge par l'assurance. À ce moment-là, c'est différent. De fait aussi, ces discriminations s'adressent ou peuvent être plus importantes justement pour une personne seulement séropositive.
Donc là, c'est le problème du test. Quand on parle du sida, si on veut parler plus particulièrement des femmes, là aussi, il y a des questions qui sont plus spécifiques, parce qu'il y a des questions liées à la grossesse, déjà. Donc, est-ce que systématiquement, lorsqu'on fait un test de grossesse, on pratique le test du sida ?
Quand même pas systématiquement. De fait, maintenant, l'indication, c'est qu'il faut avoir le consentement éclairé de la personne qui fait le test. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait eu une discussion, une explication de ce que fait ce test. Maintenant, à la polyclinique de gynécologie, oui, ils proposent le test HIV à toutes les femmes en début de grossesse, comme sont faits d'autres examens. Et ils le proposent aussi à une femme qui déclare désirer une grossesse. Je ne peux pas dire comment ça se pratique chez tous les gynécologues. Là-dessus, je ne sais pas. Les abus dont on a entendu parler de tests pratiqués sur des personnes à leur insu semblent quand même diminuer plutôt. En tout cas, à Genève, ce n'est pas forcément le cas pour le reste de la Suisse.
Alors, toujours dans ce groupe SIDA, je crois que tu accompagnes des personnes séropositives. Et qu'est-ce que vous leur proposez ?
Ce sont donc des volontaires qui accompagnent des personnes malades ou séropositives aussi, oui. L'accompagnement, ce sont deux personnes volontaires qui sont d'accord de vivre quelque chose avec cette personne malade. Et c'est très différent d'une situation à l'autre. Il y a telle personne malade qui travaille encore, où le problème, c'est plutôt l'isolement. Le fait de se dire, bon, d'accord, alors je suis malade, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a la mort. Il n'y a plus rien possible de vivre. Et l'étonnement que, de fait, elle vit toujours. Je veux dire, ce n'est pas immédiat comme ça. De fait, aujourd'hui, les malades du sida vivent assez longtemps. Ça a changé. Et pour d'autres, ça peut être des visites à domicile ou à l'hôpital, une à deux fois par semaine, donc où c'est vraiment un accompagnement.
Non, mais je me disais que peut-être aussi j'étais très vague, parce que là, on parle indifféremment de personnes malades, de personnes séropositives et tout, et je crois que c'est très différent. Peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on refasse la distinction de manière plus claire, de pas mélanger tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne séropositive n'est pas une personne malade.
Bien sûr, oui.
Non, mais c'est moi qui ai créé l'ambiguïté.
Oui, tout à fait, c'est important, bien sûr. Une personne séropositive peut être parfaitement en bonne santé et le rester jusqu'à... Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas savoir ni quel pourcentage de personnes vont effectivement
développer malade.
Ouais. Et on n'a que des estimations sur le temps depuis qu'on a découvert la maladie.
Toujours est-il que, d'après les témoignages qu'on a pu lire ou entendre, le fait de se savoir séropositif est un choc quasiment aussi important que si on nous disait tout de suite qu'on a le sida.
Oui, il y a même des personnes qui ont pu me dire que le choc avait été plus grand que... au moment où on leur a dit « maintenant, vous êtes malade », que c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire, mais je ne voudrais pas le généraliser, parce que j'ai l'impression que chaque malade avec qui j'ai pu parler disait autre chose ou vivait autre chose, cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont pu dire qu'une fois que la maladie, que c'était clair qu'ils étaient malades, il y avait un type d'angoisse qui n'était plus là, la peur que ça arrive, je veux dire. Et à ce moment-là, bah, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, mais qui est peut-être trop souvent, on voit que la toute fin. Pour le moment, ben, ils peuvent, il y a des traitements quand même qui font, qui ne guérissent pas, mais qui font qu'une personne peut travailler, peut vivre assez bien, peut-être plus fatiguée, mais et ils se posent toute la question de quelle vie, même à l'idée de la mort. Je veux dire.
En fait, si je pose toutes ces questions, c'est surtout puisque, de par toute la discussion, que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit lorsque une personne est déjà soit séropositive ou ensuite a développé la maladie, c'est d'en parler. Et c'est que comment arriver justement à changer, bon, comme disait Diego, est-ce qu'on change vraiment les mentalités? Alors ça. Mais comment arriver justement à intégrer le plus possible cette nouvelle situation devant laquelle nous sommes tous confrontés? En fait, c'est dans ce sens-là que je posais mes questions, en me disant, ben moi, en tant que femme, dans ma vie tous les jours, comment agir, comment réagir? Parce que je crois que Martine Beauvais parlait avant de peur. Je crois que même on a beau se dire, oui, mais on peut prendre des précautions, et si ça, la peur reste. Donc, je me demande comment trouver un moyen pour de mieux en mieux arriver à intégrer ce phénomène dans notre vie de tous les jours. Alors, que ce soit au niveau de la prévention et que ce soit aussi par rapport aux personnes qui sont directement confrontées.
Oui, moi, là, j'avais envie de dire quelque chose parce qu'on a l'air de parler très, très dramatiquement du sida. En plus, à la radio, le sida... pour moi, c'est un système infaillible pour développer l'audience. Donc, il faut faire très, très attention. On peut donner des chiffres. Il y a un certain nombre de personnes touchées. Il y a un certain nombre de personnes qui seront touchées. Mais tant qu'on ne dira pas que le sida, ça nous concerne tous, parce que d'ici 1, 2, 3 ans, on aura des proches, des amis qui auront cette maladie et qu'on ne s'engagera pas pour changer les mentalités, c'est pas seulement les autres, mais c'est moi, c'est vous. Donc c'est important d'être partie prenante. Il ne faut pas attendre sur les autres pour changer de mentalité. Il faut s'engager, nous. Alors, c'est une réflexion, c'est peut-être un des côtés positifs du sida, c'est de réfléchir à moi, ce que j'appelle la convivialité, de savoir que, ben voilà, moi, je suis touchée non seulement dans mes relations sexuelles, il va falloir peut-être que je sois plus prudente, mais avec mes amis, dans le sens que, bien oui, on peut parler plus profondément, et puis je vais peut-être devoir accompagner des gens qui vont mourir. Moi, je me sens terriblement concernée. Et j'attends pas, je ne veux pas compter sur les autres pour changer les mentalités, je vais y aller, je vais foncer. Alors, quand Diego, tu posais ta question, c'est... Vous êtes les jeunes de demain, enfin, vous êtes déjà pas mal les jeunes d'aujourd'hui, mais vous avez quelque chose, vous avez un grand rôle à jouer.
Oui, alors, si je comprends bien, ce qu'on a espéré, c'est que l'on puisse, nous, militer, en parler en toute liberté... et essayer de donner l'exemple, bon, de donner l'exemple entre guillemets, mais de vivre avec au mieux. Et c'est de cette manière-là que, bon, à long terme, ça, on pourra peut-être vivre tous conjointement, en cohabitation, etc.
Parce que vous parlez de convivialité, et je crois que déjà là, il y a un progrès qui s'est fait dans le sens moins altruiste que de s'occuper... universellement des malades du sida. Il y a un retour au groupe et à la famille qui me semble très fort et important, que dans notre société basée sur l'individu, il y a une espèce de ras-le-bol qui est en train de se faire et que on a envie de retrouver un cocon qui soit familial ou pas. Et ça, à mon avis, c'est un progrès. Vous parlez d'aspect positif du sida, c'est ambigu de le dire comme ça, mais en même temps, ça peut en être un. Et là, il peut y avoir une dimension moins dramatique de cette maladie. Mais en même temps, quand moi, on me parle de malades qui sont atteints du sida et que c'est des gens, des personnes réelles, c'est non plus quelque chose d'abstrait, Moi, ça me laisse un peu perplexe. Et c'est comme avec toutes les maladies incurables. Moi, je ne sais pas si je saurais dire ce qu'il faut, les mots qu'il faut, comment se mettre à la place de quelqu'un qui est malade, comment savoir si on lui fait plaisir en disant ça ou si on la heurte, comment savoir comment se comporter. Et peut-être que des fois, comment verser, surtout dans ne pas verser dans la pitié ou dans la compassion. Moi, je trouve que c'est extrêmement délicat et que c'est un effort énorme pour, en tout cas pour moi, parce que je sais pas ce que c'est et que vraiment, je sais pas si je serais capable, comme vous le faites, de partager ma vie avec des gens malades. C'est si horrible que ça puisse être, c'est un effort, c'est un sacrifice encore. Et ça, quand on parle de changer les mentalités, à mon avis, ça va être plus difficile que de mettre un préservatif.
Oui, moi, en fait, je suis quand même étonnée. Quand c'est une personne qu'on connaît, qu'on a connue déjà avant, c'est un peu différent que quand c'est le malade abstraitement. Et heureusement, enfin... Moi, je suis vraiment contente de voir que ce n'est pas les réactions des États-Unis ici complètement. Je veux dire, ce n'est pas vrai que tous les gens partent en courant. Il y a aussi des gens qui arrivent à dépasser la peur. C'est vrai qu'il y a une certaine peur. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui travaillent avec des personnes malades ont une petite anecdote la première fois où, tout en sachant que telle chose n'est pas dangereuse, eh ben on a quand même peur, je veux dire, il y a quelque chose comme ça. Mais ces peurs-là, ils sont dépassables, et ils sont dépassés, ça se passe, je veux dire. Ça s'est passé autant à l'hôpital, parmi, je ne sais pas, les sages-femmes, les infirmières, maintenant les aides familiales, les infirmières à domicile, où la première réaction, c'est la crise un peu, et puis ensuite, en fait, bon, comment on va faire, je veux dire. Et je trouve qu'au niveau des amis aussi, il y a des réactions comme ça. Pas dans toutes les situations, bien sûr, mais quand même souvent, et que c'est plus quelque chose de possible. Et que, pour moi, en tout cas, ça veut aussi dire un rappel comme ça. Oui, la mort, elle fait partie de la vie quelque part. Ça nous a bien arrangé, et moi aussi, je veux dire, je me mets là-dedans, de faire comme si elle ne devait pas exister. Et comment on gère ça? On est un peu mal à l'aise avec ça. Là, je suis d'accord avec toi. Mais en ça, c'est aussi une possibilité, quelque chose qui, de fait, n'allait pas, de le voir autrement.
Donc, ce serait le temps qui changerait les choses et pas tellement, entre guillemets,
c'est des personnes
les gens.
Qui
là, on est, et le cœur, oui. Parce que là, on est... Oui, c'est ce qu'on disait, on est au début de quelque chose et ça va évoluer. Espérons dans un sens positif, une prise de conscience plus grande des gens.
En tous les cas, la fin de notre dossier arrive, le temps a passé. Nous, si nous avions envie de parler du sida, ce n'était pas pour augmenter notre pouvoir médiatique, que nous savons déjà très grand sur Radio Zone 93.8, mais c'était parce que Catherine et moi, et toutes les femmes de Honte Femme, c'est quelque chose qui nous préoccupe, puisque comme Barbara, comme Diego, comme vous tous, on s'y trouve confrontés, on avait envie d'en parler avec vous parce qu'on a aussi nos peurs, on a aussi nos gènes par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, en faisant ce dossier, j'espère que ça a été aussi un peu le cas pour vous, ça nous a un peu obligés à nous poser certaines questions et puis à se rendre compte aussi que la réalité n'était peut-être pas si dramatique aussi qu'on le pensait. Parce que d'en parler, de lire des brochures, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. C'est aussi un moyen d'être mieux et plus consciente d'un problème et puis d'arriver à mieux en discuter, peut-être de mieux l'intégrer. En tous les cas, c'était le but de notre dossier. Je remercie beaucoup Barbara, Diego, Brigitte Studer ainsi que Martine Beauvais d'être venues avec nous ce soir pour en parler.
Alors, retour des vacances, eh bien, nous espérons pouvoir vous proposer une nouvelle émission concernant le sida, mais cette fois-ci sur un thème plus limité, mais qui a pris justement cette importance aujourd'hui. C'est comment vivre quand on est séropositif ou atteinte du sida. Et nous espérons pouvoir avoir le témoignage, faire une rencontre avec une femme qui pense, elle aussi, qu'il est important de témoigner, à la fois pour elle, mais aussi pour les autres, de ce que c'est que la vie de quelqu'un qui est atteint du sida.
Mão de preto no couro, ui, ui, e um braço. quero ouvir bater do tambor. Mão de preto no couro.
Ça, c'était Gal Costa. Gal Costa, une chanteuse brésilienne magnifique, pour finir notre après-midi. Remue Ménage, aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve mercredi prochain, très certainement en compagnie de toute une bande d'adolescentes du cycle d'orientation qui viendront un peu parler de leurs préoccupations, de leur bonheur, de leurs difficultés, histoire de clore avec des idées de la jeunesse notre saison en direct de Radio Zone sur Ondes Femmes. Remue Ménage 93.8. Alors, à la semaine prochaine et bientôt Radio Pleine Lune.